Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Patrick de Caroli, c'est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi dans Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. On parlait à l'instant de Jacques Chancel, cette messe qui a été dite à sa mémoire ce matin. C'était un très grand monsieur de l'audiovisuel, Patrick de Caroli, évidemment. Et nous avions eu la chance et l'honneur de le recevoir à ce même micro il y a quelques mois. Il était venu nous parler de sa guerre d'Indochine. C'est un moment inoubliable.
C'est effectivement un marqueur de l'audiovisuel public, un marqueur de la radio, de la télévision, qui a été un guide pour des générations de journalistes, de professionnels de la télévision dont je fais partie. On a tous voulu, à un moment donné, lui ressembler.
Et parler comme Jacques Chancel, avec cette voix et cette intonation extraordinaire. Alors, c'est une longue confession de la mère de Napoléon que vous nous proposez dans ce roman, je ne sais pas si on doit dire roman ou confession précisément, paru chez Plon, Laetitia Bonaparte, la mère de toutes les douleurs, autant dire une figure moderne de la mater dolorosa. C'est une belle figure, et pas seulement maternelle, que vous nous proposez.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez, Franck, à la question de Benoît via la page Facebook de l'émission.
Oui, Benoît voudrait connaître, je le cite, les mystérieuses calendes grecques dont on parle pour remettre quelque chose que l'on ne fera pas. Pourquoi pas, après tout? Pour le moment, sans rien remettre aux calendes, nous avons rendez-vous avec Madame Mère.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Quel destin inouï que celui de cette femme, une Corse de famille moyenne qui aura mis au monde, toute une fratrie de rois et de reines. Nous allons évidemment y venir tout à l'heure avec Patrick de Carolis. Je vais vous faire une confidence. Le thème qu'a choisi Patrick de Carolis, cette vie de Laetitia Bonaparte, m'avait tenté moi-même il y a quelques années et j'avais commencé un livre qui fait partie de mes travaux inaboutis. Je suis d'autant plus heureux que ce livre-ci ait pu voir le jour et qu'il fasse si joliment revivre la mère de Napoléon. Mon excellente mère est une excellente femme d'âme et de beaucoup de talent, disait Napoléon à propos de sa mère. Elle a un caractère mâle, fier et plein d'honneur. Je dois ma fortune à la manière dont elle a élevé ma jeunesse. Je suis d'avis que la bonne ou la mauvaise conduite à venir dans l'enfant dépend entièrement de sa mère. C'était peut-être aller un peu loin, mais ce sont les formules à l'emporte-pièce de l'empereur. Il disait encore, c'est à ma mère, c'est à ses bons principes que je dois ma fortune et tout ce que j'ai fait de bien, et je n'hésite pas à dire que l'avenir d'un enfant dépend de sa mère. Voilà qui est enfoncé le clou. Quant au frère de Napoléon, à Joseph, grand frère, il s'adressait à sa mère en parlant d'une femme forte et bonne, modèle des mères, et lui disait « Combien tes enfants te sont encore redevables des exemples que tu leur as donnés ?» On ne sait pas tout de la vie de Laetitia Bonaparte. C'est assez intéressant d'ailleurs d'aller scruter parfois certaines zones d'ombre ou qui sont encore ténébreuses parce qu'on n'a pas suffisamment exploité les fonds d'archives, les courriers, tous les éléments dont on pourrait disposer. C'est principalement au témoignage du fils Napoléon qu'il faut avoir recours pour connaître la mère, nous dit Clara de Tchoudi dans son ouvrage sur la mère de Napoléon. Dans l'ivresse de son triomphe, nous dit-elle, il ne l'appréciait pas à sa juste valeur. Mais à l'heure de l'adversité, il comprit ce qu'il lui devait. Par son courage, ses vertus domestiques, son attachement à l'île natale, par son dévouement pour ses enfants, sa modestie au milieu des grandeurs et son inaltérable résignation dans les cruelles épreuves que lui imposa la Providence, elle mérite une place d'honneur parmi les femmes de cette époque. Et c'est vrai qu'elle est, la vertu, même si elle est aussi parfois, disons-le, un peu irritante et même crispante. Elle a une façon de voir, c'était une femme d'un caractère trempé. C'est même le moins qu'on puisse dire. Après tout, elle était corse, n'est-ce pas? Sa famille était venue du nord de l'Italie, de Naples et surtout de Gênes. Elle était venue en Corse vers la fin du XVe siècle. Donc ça fait partie de ces bonnes familles enracinées en Corse. Le vrai nom de Maria Laetitia, je l'ai dit, c'est Ramolino. Hein. Elle était née à Ajaccio. Alors quand, on ne sait pas exactement. Certains disent en 1736, ce qui veut dire qu'entre parenthèses, qu'elle aurait été centenaire au moment de sa mort. Ça paraît quand même assez peu probable. Sa dame d'honneur, la duchesse d'Abrantes, qui est quand même assez bien placée, situait sa naissance en 1748. C'était d'ailleurs ce que faisaient la plupart de ses enfants. D'autres biographes parlent de 1750. Bref, de toute façon, on n'a pas les registres ecclésiastiques, donc c'est très difficile à dire. Ses propres parents étaient d'origine italienne, vous l'aurez compris. Son père, Jean-Jérôme Ramolino, est capitaine dans l'armée génoise, puis inspecteur général des ponts et chaussées en Corse. Quant à la mère, Angela Maria di Pietrosanta, c'est la fille d'un gentilhomme de la province de Sartène. On est là, peut-être que ce que Laetitia avait de plus noble en elle, c'est à cette mère qu'elle le devait du reste. Et puis, il y avait une sœur qui est morte en bas âge et un petit frère. Il faut vous dire qu'elle perd tôt son père, en 1755, cette petite Laetitia. Sa mère se remarie avec un certain Franz Fesch. Voilà un nom que vous ne pourrez pas oublier. On en reparlera évidemment tout à l'heure, puisque une sœur, mais surtout un frère, vont naître de cette union et que Laetitia va littéralement adopter ce frère, ce demi-frère, Joseph, qui un jour deviendra le célèbre cardinal Fesch. En Corse, à cette époque, on ne s'occupait guère de l'éducation des filles, nous dit Clara de Choudy. Et c'est vrai que l'éducation de Laetitia a été réduite à sa plus simple expression. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est devenue très vite un excellent parti. Elle était considérée, rien de moins, que comme la plus belle femme de la Corse. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Les bustes, les portraits nous le montrent. Elle avait une taille un petit peu au-dessus de la moyenne, très bien proportionnée, les cheveux châtains, des yeux pétillants, de longs cils noirs, une bouche très fine, assez remarquable, qui permet de la reconnaître sur les portraits, le menton légèrement proéminent, de jolies oreilles, et puis disait-on, un rire extraordinaire et un attrayant sourire, une grâce innée, un charme irrésistible qui vont lui valoir bien des succès, évidemment, y compris dans toutes ces bonnes familles de Corse où l'on se dit qu'elle ferait décidément un bon parti pour le fils, pour le neveu, etc. D'ailleurs, c'est un oncle qui va la repérer, un monsieur Buonaparte, qui la repère pour son neveu, qu'il a élevé en partie, Carlo. Ils vivent à Ajaccio. D'ailleurs, l'oncle fait revenir le neveu à Ajaccio pour la circonstance. Beau neveu d'ailleurs, de haute taille lui-même, avec des traits fins et réguliers, une figure très expressive qu'on reconnaît là aussi assez bien sur les portraits. La seule ombre au tableau, au dire de la mère de la fiancée, c'était que les Ramolino, tant par tradition de famille que par sympathie personnelle, se rattachaient aux Génois, qui à l'époque étaient les maîtres de l'île. Tandis que les Bonaparte, eux, depuis très longtemps, étaient des admirateurs de Paoli, étaient des partisans de l'indépendance. Il ne faut pas oublier dans quel contexte on se situe, dans une Corse totalement agitée, déchirée entre génoises et indépendantistes. N'oubliez pas qu'on se marie tôt en Corse, on se marie jeune à l'époque, et c'est une adolescente évidemment qui va épouser Carlo Bonaparte. La bénédiction nuptiale, semble-t-il, a eu lieu le 2 juin 1764. On n'est pas tout à fait sûr de cette date du 2 juin, mais c'est en tout cas la date que retenait Madame Mère pour célébrer en quelque sorte la mémoire de son défunt mari. On peut donc imaginer que c'était bien la date de son mariage.
Thank you.
Un extrait du trio pour piano et cordes numéro 2 de Schubert. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la jeunesse de Laetitia Bonaparte.
Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire politique de la Corse à l'époque, ce qui est d'ailleurs d'une complexité folle, ça change tous les 6 mois à peu près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en mai 1768, un traité a été conclu qui a remis en cause l'indépendance chèrement et acquise de manière, on va dire, éphémère, et qu'un conseil a été convoqué à Corte, qui était le siège du gouvernement, et c'est la raison pour laquelle toute la petite famille, quand je dis toute la petite famille, pour l'instant en tout cas, Carlo et son épouse, vont s'installer à Corte, dans cette petite ville très ancienne, hein, évidemment, dans une maison. Ils s'installent dans une maison qui a appartenu à un indépendantiste célèbre, hein, le chef de la résistance corse contre Gênes, Gaffori, maison complètement délabrée au demeurant. Et c'est là que Laetitia va tomber enceinte très vite. Mais elle a 19 ans, elle aura déjà 4 enfants, vous voyez. Mais les premières couches se passent mal. Le 7 janvier 1768, elle accouche de son premier fils viable. Mais il y en a eu plusieurs, grossesses interrompues. Le premier fils, c'est bien sûr Joseph, dont on va avoir l'occasion de reparler. Carlo est avocat, j'avais oublié de vous dire ça, qu'il avait été faire son droit sur le continent. Enfin, c'est un peu une histoire un peu longue. Il est avocat, il a le goût du luxe. On va dire qu'il mène grand train, lui, et ça inquiète beaucoup sa femme, qui est la prudence incarnée. Il exige que Laetitia se produise en société. Elle fait partie des meilleurs atouts qu'il puisse produire. Évidemment, il y a des soirées dans la bonne société de l'époque. On ne peut pas dire que Laetitia soit très à l'aise dans tout ça. Elle préfère se concentrer sur sa famille. Elle va vraiment avoir une dimension spécifiquement maternelle, et par ailleurs, elle est extrêmement pieuse. Elle essaie d'aller à la messe à chaque fois que possible. Alors, il y a une anecdote à ce propos. Laetitia était partie 2 mois après la naissance de son fils à Bastia, et elle y passe la semaine sainte. Le prêtre, dit-on, était totalement fasciné par le charme de la belle inconnue. Il lui pose dans le confessionnal des questions assez peu convenables. Laetitia ne répond pas, mais elle se lève indignée. « Mon père, vous vous oubliez !» Alors le confesseur est furieux, il menace de lui refuser l'absolution. Et voilà ce qu'elle répond. « Libre à vous, mais si vous le faites, je dirai à tous les assistants, tous les gens qui sont là, qui sont venus pour la messe, comment vous vous êtes conduit. » Inutile de vous dire qu'elle l'a eu, son absolution, Laetitia. Vous voyez, un caractère trempé, une femme qui ne s'en laisse pas compter, évidemment. En 1768, on peut dire que la Corse est quasiment conquise d'une certaine manière. Les Corses promettent de défendre leur île. Le nationaliste Paoli, qui a toujours lutté contre la domination génoise, soulève son île contre les forces françaises, hein, maintenant, puisque c'est Louis XV qui est en train de s'emparer de cette Corse qu'il ne va pas tarder à acheter officiellement aux Génois. Alors, à ce moment-là, Laetitia suit Charles à travers monts et ravins, à cheval ou à mulet, portant dans ses bras son premier-né, dans son sein, celui qu'elle espère, nous dit François Durceau. C'est vrai que c'est cette période extraordinaire qu'elle aura l'occasion plus tard à la cour de raconter maintes fois, cette période chahutée du passage de la Corse à la souveraineté française. Et à ce moment-là, elle a vraiment suivi son mari par monts et par veaux. Ça a été très, très difficile. Elle a même risqué de se noyer, puisque son cheval a glissé dans les hautes eaux de la rivière, une rivière qui avait un courant rapide. Alors on lui crie ce jour-là d'abandonner sa monture, d'essayer de regagner le bord à la nage, mais elle réussit à se maintenir en selle avec son enfant dans les bras, le serrant sur son cœur, et elle regagne la terre ferme. Voyez un peu à qui on a affaire. Et elle est enceinte à ce moment-là d'un autre enfant dont elle est absolument certaine qu'il s'agit d'un fils. Alors elle dit « Regardez-le cogner ». C'est vrai qu'il donne des coups de pied, ce petit enfant, vous voyez à peu près de qui je suis en train de parler, évidemment. « Il sera le vengeur de la Corse, dit-elle, il s'agite violemment ». Je ne sais pas si le terme de vengeur de la Corse est le mieux approprié, mais en tout cas, le 15 août 1769, donc le jour de la fête de l'Assomption, Laetitia est prise de douleur. Elle est prise de douleur pendant la messe à la cathédrale d'Ajaccio, d'ailleurs. Elle est agenouillée devant la Vierge, hein, on est le 15 août, au milieu de toute une foule. Seulement là, vraiment, les douleurs deviennent terribles. Elle est obligée de partir. Alors, il y a deux ou trois femmes d'Ajaccio qui l'accompagnent jusque chez elle. Et la légende, c'est une légende qui a été recueillie par Stendhal et montée en épingle par Michelet, comme il se doit. La légende veut que la naissance, déjà assez peu banal, il faut bien le dire, ait eu lieu sur un tapis représentant César. Bon, ce qui paraît plus probable, c'est qu'en tout cas, elle soit rentrée et qu'elle n'ait pas eu le temps d'aller jusqu'à sa chambre. Elle a donné le jour sur un simple, j'allais dire un canapé, même pas, une espèce de petite banquette. Elle a donné le jour à celui qui, bien entendu, porte d'ores et déjà, je vais le franciser pour l'occasion, le nom de Napoléon Bonaparte.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Laetitia Bonaparte.
Alors, il faut l'imaginer tenant bien sa maison, évidemment s'occupant de ses enfants. Elle ne quitte, somme toute, sa maison que pour se rendre le dimanche à l'église. Elle dit « Je sais que la vraie religion commande d'aller chaque jour à l'église et qu'on ne doit en aucun cas manquer de s'y rendre les jours fériés. Cependant, je ne crois pas que les gens à la tête de grandes entreprises ou les mères de famille soient obligés de passer une notable partie de leur temps hors de la maison pendant la semaine. Cela interromprait le jour régulier du travail. Et l'on serait aussi beaucoup plus coupable devant Dieu par suite des incidents fâcheux qui pourraient se produire dans une maison mal surveillée. » Vous voyez un petit peu le genre de maison que devait être cette maison d'Ajaccio, que je vous conseille d'aller visiter, bien entendu. C'est devenu un musée très célèbre, bien entendu. Cette maison, alors celle dont je vous parle là, pas tout à fait, il faudrait faire des distinctions, mais c'est celle qui domine le marché d'Ajaccio, qu'on a longtemps appelé la place Laetitia, bien entendu. C'est une habitation qui contenait de grandes chambre, mais également une belle salle de réception, hein, qu'on appelait la salle de danse. Vous voyez, on est quand même dans une bonne famille, évidemment. Et l'été, il fait tellement chaud dans Ajaccio qu'on va prendre le frais du côté des Milelli, la villa Milelli, qui se situe alors en hauteur. C'est un très bel endroit encore aujourd'hui. C'était entièrement restauré avec des pressoirs à huile d'olive. C'est un endroit que là aussi, je vous conseille vraiment. On est dans tout le charme de la Corse au milieu des cigales, évidemment, à la belle saison. C'est, je vous ai dit, une femme très attirante, cette Laetitia Ramolino, tellement attirante qu'on va lui prêter quelques aventures, bien entendu. Certains disent même qu'elle a eu une jeunesse plutôt leste. Quand je dis certains, on a tout écrit sur cette femme, à peu près dans tous les registres. André Castelot nous dit « Le marquis général de Marbeuf, gouverneur de Lille, aurait été, selon certains, l'amant de Laetitia. » Et c'est vrai que ça pose une question, puisque c'est un des mystères historiques tournant autour du personnage de Laetitia Ramolino. Certains ont voulu voir dans Marbeuf, donc le représentant de Louis XV sur cette île de beauté, ils ont voulu voir en lui carrément le père de Napoléon. Et alors ça expliquerait, n'est-ce pas, que Napoléon ait été lui-même un grand soldat, un grand stratège, etc., puisqu'il aurait été le fils d'un très grand soldat de Louis XV. Nous verrons dans un instant ce que mon invité en pense. Quand je vois sa moue, je crois déjà pouvoir répondre à sa place. Alors, Laetitia, vous l'avez bien compris, est une femme d'intérieur. Elle est très, très stricte, très économe. Cela dit, vous me direz, elle n'a pas le choix, puisque les époux Bonaparte ne sont pas riches. Elle reste à Ajaccio pendant que son mari voyage d'ailleurs énormément. Elle va s'arranger pour élever au mieux ses enfants et les faire élever sur le continent. C'est là qu'intervient notamment le comte de Marbeuf, d'ailleurs, qui va notamment permettre que Joseph soit gratuitement admis au collège d'Autun. Napoléon, de son côté, Nabulione, sera envoyé gratuitement à l'école militaire de Brienne. Il a 9 ans, hein, le pauvre, à l'époque. Je dis le pauvre parce qu'il en a conservé des souvenirs cuisants. Il le dira, il l'écrira. Il est nostalgique, cela dit. Être loin de la demeure natale, du jardin, n'avoir plus de maison paternelle, c'est n'avoir point de patrie, dira Napoléon, à l'époque où lui-même se prend pour un romancier. Car ce qu'on a parfois tendance à oublier, c'est qu'avant de devenir ce général de la Révolution qui un jour prendra le pouvoir, Napoléon Bonaparte se rêvait dans la peau d'un écrivain, figurez-vous, et qu'il avait de grandes ambitions romanesques et romancières. Laetitia, après la naissance de Maria Paoletta, celle qui deviendra Pauline, s'en va visiter ses fils. On va dire que Lucien aussi est à Autun. Elle trouve Napoléon changé, même transfiguré. Et lui, de son côté, est ébloui par sa mère en tenue de voyage, qui est là, qui l'attend à la porte du collège. « Ma mère avait 29 ans, écrira-t-il. Elle était belle comme les amours. » Maria Anna est admise à titre gracieux dans la célèbre maison d'éducation de Saint-Cyr, qui avait autrefois été fondée par Madame de Maintenon, vous savez. Il s'agit évidemment de financer, parce que même si tous ses enfants ont été admis gratuitement dans toutes ces grandes et nobles institutions, il faut-il au moins les financer, les nourrir. Donc tout ça pose des problèmes à Laetitia, bien entendu. Elle a peur de la pauvreté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie de ces natures inquiète qui se demande toujours de quoi le lendemain sera fait. Vous savez qu'on lui attribue la célèbre phrase « Et pour vous que ça dure, pourvu que ça dure », parce qu'elle avait toujours gardé un peu cet accent terrible. Et c'est vrai qu'elle avait raison, pour ce qui était du consulat et de l'Empire, d'imaginer que ça ne durerait pas éternellement. Mais elle suit donc de près l'éducation de ses enfants, on peut dire même à distance. Elle va connaître un moment terrible au moment où sa maison est incendiée. Il y a toujours les mêmes problèmes en Corse, hein, bien entendu. Elle doit fuir. Qu'importe, dit-elle, nous la rebâtirons plus belle. Elle débarque à Toulon sans un sou, raconte André Castelot. Obtient un passeport au nom de Buonaparte Laetitia Couturière. Bientôt, on la retrouve à Marseille. Et par ses filles, elle va laver son linge à la fontaine publique et peut-être aussi du linge des voisins qu'elle blanchira pour quelques sous. Là, c'est les époque vraiment des vaches maigres. Elle s'installe avec ses plus jeunes enfants donc à Marseille. Elle continue de soutenir Napoléon. Elle me parle de l'appui consolateur qu'elle trouvait en moi, dira-t-il. Elle a trouvé un logement rue Pavillon, rue étroite, en pente, dépavée par endroits, nous dit Alain Decaux, qui pue à plein nez la crasse, l'huile et le poisson pourri. Comme ses voisines, la rue Torte, la rue de la Guirlande et la rue Bonnetterie, elle est soigneusement évitée par les Marseillais, qui se piquent de quelques distinctions. Il faudrait leur donner gros pour qu'ils aillent se perdre dans ce cloaque. Eh bien, c'est dans ce cloaque que, pour l'instant, vit Laetitia. On va voir comment Patrick de Carolis a fait revivre tout ça. Elle fait front. Elle va, au moment où son fils se trouve en difficulté, hein, après Toulon, après l'affaire de Toulon, elle écrit elle-même à la Convention, d'ailleurs une lettre absolument extraordinaire. Elle obtient du reste gain de cause. Elle permet, à l'aide en tout cas, à disculper son fils. En 1797, vous savez, alors là, il faut se remettre dans ce contexte de la campagne d'Italie, des victoires répétées de Napoléon Bonaparte. Il devient quasiment un héros national. À Marseille, c'est sa mère qui reçoit en son nom les hommages de la municipalité. À ce moment-là, elle peut repartir pour la Corse, rebâtir sa maison. Elle n'y restera pas très longtemps, puisque ce sera bientôt le coup d'État du 18 Brumaire. Et il faut que la mère du premier consul soit à Paris, bien entendu. « Madame Mère, nous dit un de nos chroniqueurs, souffrait d'un accent corse très prononcé qui déformait ses mots en français. La fameuse phrase « Pour vous que ça dure » en est l'illustration la plus symbolique. Cela posé, d'autres récits rapportés par ses proches permettent de penser qu'au fil des années, même si certaines tournures grammaticales n'étaient pas exactes, sa maîtrise de la langue de Voltaire s'était améliorée. » Sa maîtrise de la langue de Voltaire peut-être, sa maîtrise des mœurs parisiennes sûrement moins. Et lorsque notamment on veut l'installer aux Tuileries, « Ah non, dit-elle, non, pas question. Mais pourquoi, madame, pourquoi ? Parce que je ne m'y sentirai pas chez moi. » Alors bonjour Patrick de Carolis.
Bonjour. C'est très agréable de vous entendre.
Merci. Nous sommes dit un mot de Jacques Chancel tout à l'heure. Maintenant nous allons venir à votre personnage, à cette Laetitia Ramolino. Je l'ai conduite quasiment jusqu'aux marches du trône, mais il va maintenant falloir la suivre dans l'épopée napoléonienne.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Laetitia Bonaparte, en compagnie de votre invité, Patrick de Carolis, écrivain et auteur de Laetitia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs aux éditions Plon.
Le R pour Ramolino, qui était son nom de jeune fille. Elle avait la tête sur les épaules, hein, cette dame.
C'est une dame qui effectivement était carrée, comme l'on dit. Elle avait la tendresse sévère, disait Napoléon d'elle. Vous avez évoqué tout à l'heure sa beauté quand elle était jeune. On a l'image d'une femme austère aujourd'hui. Ses bustes sont très sévères.
Parce qu'elle a vécu si vieux.
Absolument, 86 ans. Elle est morte à peu près à l'âge de 86 ans. Elle allait les avoir. Quand elle était jeune, elle était si belle que les vicaires d'Ajaccio disaient d'elle que sa beauté provoquait beaucoup plus de conversions que les saints du
pays. Elle était un bon argument pour aller à l'église, pour conduire les gens à l'église.
Absolument, oui. Absolument. Quand elle va à Paris, elle y va effectivement à la période du 18 Brumaire. Elle y va parce qu'elle est malade de la malaria, elle a des crises de malaria, et ce sont ses enfants qui lui demandent d'aller à Paris.
Pour qu'elle puisse être soignée.
Voilà. Oui. Et elle est accompagnée de Louis à ce moment-là. Il faut dire qu'elle a perdu déjà son mari, Carlo. Elle perd son mari à l'âge de 36 ans, il en a 38. Lui meurt à Montpellier, dans la famille des amis, c'est la famille Permont. Mmh. Et Laetitia va se retrouver chef de famille avec 8 enfants à élever. Et quand elle part en exil, son premier exil, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à Toulon, à Marseille, puis à Antibes,
très dur, hein.
Elle part avec ses filles. Sans le mari,
c'est une veuve,
il n'y a plus d'argent.
Ça, oui.
Il n'y a plus d'argent. Elle vit des rations que peuvent lui envoyer Napoléon ou Lucien. Et les filles vont laver le linge dans les fontaines de Marseille.
Les filles sont la vendière d'une certaine manière.
On peut le dire. Et puis elle est couturière. Elle fait des travaux de couture.
Ce sont les mêmes personnes qui 10 ans plus tard occuperont tous les trônes d'Europe.
Absolument.
Quand même. C'est tout à fait
Absolument.
Extraordinaire. Alors. Il faut peut-être que nous fassions la liste de ces enfants, justement, et que nous les voyons. J'ai dit un mot tout à l'heure de Joseph, quand même, qui a été un personnage intéressant.
C'est l'aîné, oui. Mais ce ne sera pas le chef de famille.
C'est ça, c'est curieux. Hein.
Le chef de famille, d'abord, c'est Laetitia.
Oui, d'abord c'était.
Et après, c'est Napoléon. Et c'est un tandem. On voit bien que là, se noue une alliance vraiment jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, elle essaiera de récupérer les cendres de son fils. Enfin, c'est son combat. Et il se noue une alliance, c'est un tandem. Le caractère de Joseph n'est pas suffisamment fort pour être ce chef de famille. Et c'est Napoléon qui prend ce rôle-là. Et dès qu'il va grandir, dès qu'il va devenir empereur, il va vouloir régir les vies de ses sœurs et de ses frères, ce qui provoquera d'ailleurs pas mal de tensions avec Lucien.
Y compris les vies privées, bien entendu. Il y a un lien extraordinaire entre Napoléon et sa mère. Celui qu'elle aurait peut-être tendance à préférer, ça semble être Lucien quand même. Il y a une certaine tendresse pour Lucien.
Il y a une tendresse pour Lucien parce qu'elle dira toujours qu'elle prend le parti de l'enfant qui souffre le plus. Et à ce moment-là, au moment après le 18 Brumaire, il faut pas oublier que Napoléon devient consul avec Seyès, avec Ducos, c'est un peu grâce à Lucien. C'est Lucien qui réussit le discours. C'est Lucien qui réussit à imposer
son
frère.
Il est dans l'ombre, il est là tout de suite.
Et d'ailleurs, pour le remercier, il va le nommer secrétaire ministre de l'Intérieur. Fouché va se mêler de tout ça, va essayer de s'en débarrasser. Il s'en débarrassera. Il le nommera, enfin, il le fera nommer par Napoléon ambassadeur en Espagne. Et là, à ce moment-là, va commencer un petit éloignement, une petite rancœur de Lucien vis-à-vis de son frère Napoléon.
Qui ne fera que croître, évidemment.
Qui ne fera que croître, puisque Lucien n'épousera pas les partis que souhaite que son frère Napoléon épouse. Il veut que ses frères et sœurs épousent les grands partis d'Europe. Il veut asseoir sa puissance comme un échiquier européen. Et Lucien va lui aimer simplement des vrais amours, mais des filles. C'est Catherine Boyer, qui l'appellera d'ailleurs Christine. C'est Alexandrine de Bléchamp. Donc des femmes qui n'ont pas de statut, qui sont parfois des merveilleuses, comme on dit à l'époque. Et ça, Napoléon n'en veut pas. Et c'est la cause du départ de Lucien en exil en Italie.
Qui va attirer pendant un temps sa mère, du reste.
Absolument, et c'est la raison pour laquelle, Laetitia n'assistera pas au sacre de Napoléon le 2 décembre 1804.
On sait que David l'a peinte néanmoins à la demande de l'empereur. Elle est peinte à la tribune, mais elle n'était pas là.
Le caractère de Laetitia, c'est que, bien sûr, Napoléon veut que sa mère soit là. C'est très important, c'est elle le chef de famille. Et il lui demande de rentrer de Rome. Elle va rentrer. Mais elle va mettre 17 jours pour faire le voyage. Elle arrivera le 19 décembre, le sacre a eu lieu le 2.
Oui. Elle est partie quand il aurait fallu arriver, en quelque sorte. Alors, on va dire un mot des deux sœurs, et notamment de Pauline, bien entendu, fondamentale. Les deux plus petits frères sont peut-être un peu moins importants, Louis et Jérôme.
Louis est assez faible sur le plan du physique et de la santé. Il a toujours été couvé par Napoléon. C'est son petit frère. Il aime beaucoup. Il essaie d'ailleurs de le pousser. Il le fera roi de Hollande. Hein.
Ce sera le père de Napoléon III.
Mais hein. Voilà. Jérôme a moins de caractère non plus parce que il faut rappeler cette anecdote. Jérôme est parti aux États-Unis. Jérôme est tombé amoureux d'une Américaine, Elisabeth Patterson. Ils se marient, ils vont avoir un enfant, il veut revenir en France, sauf qu'il n'a pas demandé l'autorisation à Napoléon pour ce mariage, et elle attend à Amsterdam l'autorisation de rentrer en France qu'elle n'aura jamais, elle repartira aux États-Unis, ils ne feront plus leur vie ensemble.
On a l'impression que tant que c'est madame, donc on l'appelait madame à la cour, ou madame mère, hein, tant que c'est la mère de Napoléon qui gère la fratrie, enfin tous ses enfants, ça tient à peu près. Et puis à partir du moment où c'est Napoléon le chef de famille, ils passent leur temps à vouloir tous lui désobéir d'une certaine manière. Ou lui complaire, cela dit. Je parlais des sœurs Pauline et Elisa, disons un mot.
Pauline, c'est la plus intéressante.
Ah oui, elle est
parce que
fascinante.
C'est la plus infidèle aux hommes. Et en même temps, c'est la plus fidèle à son homme, c'est-à-dire à Napoléon, son frère. C'est la seule des sœurs, la seule des enfants qui ira lui rendre visite. Ce sera la première à lui rendre visite au cours de son premier exil sur l'île d'Elbe. Il y a trois femmes qui vont le voir. Il y a Paulina. Extrêmement fidèle à son frère.
Va mener la cour de l'île d'Elbe.
Il va y avoir Marie Valeska, son grand amour polonais, qui viendra avec son fils Alexandre. Et puis bien sûr Laetitia qui restera jusqu'à la fin sur l'île d'Elbe, c'est-à-dire je crois près de 8 mois avec son fils et qui aura adoré ce moment-là parce qu'elle le retrouve.
Mais pourquoi n'est-elle pas partie pour Sainte-Hélène, elle ? Pourquoi Madame Mère n'a-t-elle pas fait
ça ? Elle l'a demandé, elle n'aura pas les autorisations. On dit, et les historiens, moi je ne suis pas historien, mais les historiens disent que de toute façon Napoléon ne souhaitait pas qu'elle puisse venir. Bon, l'île est quand même très isolée,
pour
y aller c'est difficile.
Oui, bien sûr, oui.
Et puis je pense qu'il ne voulait pas que sa mère le voie dans cet état-là.
Mais voilà. Complètement défait, évidemment. Il y a chez madame un certain nombre de, comment dire, je parlais d'énigmes tout à l'heure, de zones d'ombre. Comment avez-vous d'ailleurs réuni cette incroyable documentation sur elle ? Où se trouvent les sources, Patrick de Carolis ?
Les sources se trouvent d'abord chez vos confrères, les historiens. Beaucoup de choses ont été écrites dans des beaux et grands livres sur Napoléon, par exemple. Il y a ses mémoires qui ont été rédigées soit par Rosa, sa dame de compagnie, soit par le cardinal Fesch qui l'aidait beaucoup dans l'écriture.
Donc son demi-frère.
Hein. Et son demi-frère qu'elle adorait. Et il avait 14 ans de moins qu'elle, il faudrait qu'on en dise un mot tout
bien
à l'heure.
Sûr,
c'est un personnage
sûr, oui.
Formidable, une grande amitié fraternelle entre ces deux êtres, qui mourra d'ailleurs 3 ans après elle. Et on trouve aussi beaucoup de choses chez la duchesse d'Abrantès. C'est la duchesse d'Abrantès. C'est la fille de Madame Permont, une des amies de Laetitia,
oui.
Qu'on retrouve, puisque c'est chez eux, à Montpellier, que mourra Carlo.
Je parlais tout à l'heure de cette aventure avec le comte de Marbeuf. J'ai vu que vous haussiez les épaules, vous regardiez
oui,
le plafond du studio.
Parce que c'est tellement romanesque d'imaginer qu'il puisse y avoir une aventure entre les deux êtres.
Mais elle a quand même, ça c'est quand même incontestable, elle a passé quelque temps au palais du gouverneur.
Oui, ça, sans son mari.
Sans son mari.
Sans son mari, c'est vrai. C'est vrai, mais avec ses enfants.
Avec ses enfants.
Enfin, une partie de ses enfants. Tout à l'heure, je réagissais sur Napoléon. Napoléon est né quand Laetitia rencontre Marbeuf. Elle le rencontre, je crois, en 1771. Il a 2 ans. Donc, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être le père de Napoléon. Alors, Napoléon jouera un petit peu de ça.
Oui,
il s'est interrogé.
Oui,
il a interrogé Monge un jour en lui disant « Mais d'où est-ce que je tiens ce caractère de batailleur ? Il n'y a pas de militaire dans ma famille. Et le seul que l'on connaissait, c'était Marbeuf. » Non, c'est impossible. Il est né déjà, il a 2 ans. On peut se poser la question pour les autres, mais connaissant le tempérament, imaginant le tempérament de Laetitia qui a fait de la morale et de la dignité son étendard, je ne l'imagine pas céder aux avances de Marbeuf. Que Marbeuf ait eu des intentions, ça, je veux bien le croire. Elle a 22 ans quand elle le rencontre, il en a à peu près 60, et il se mariera d'ailleurs quelques temps après avec une jeune femme de 40 ans, sa cadette. Donc, il est très attiré par, sans doute par elle. Qu'il y ait eu des relations, je n'y crois pas. Elle est corse. Elle a une éducation, vous l'avez dit, elle est très religieuse, elle est ça me paraît très romanesque, et moi qui ai écrit un roman, je ne suis pas allé jusque là.
Voilà, vous ne vous êtes pas autorisé cette licence là, loin de là même. Je pense que vous avez raison entre nous. Elle est très courageuse, très droite, très pure, on a presque l'impression d'une héroïne antique quelque part, personnage presque cornélien un peu.
Oui, Paoli l'a décrit et l'appelle Cornélie. Cette grande figure romaine, déjà, elle impressionne quand les relations avec Paoli sont étonnantes parce que les Bonaparte,
Paoli, au départ, le grand leader indépendantiste,
le grand leader Oubabou, le père de la patrie corse. D'abord, Carlo est un de ses secrétaires. C'est lui qui lui écrit ses discours. Il travaille beaucoup avec lui quand ils vont à Corte. Ils vont à Corte parce que à l'époque, les ports génois était pris par les Génois. Tous les ports étaient génois, donc il fallait se retirer au centre de la Corse. Et c'est là que naît cette résistance. Ils sont anti-français au départ. Ils sont royalistes, mais anti-français. Et c'est par réalisme, lorsque à Ponte Nuovo, la bataille est terrible pour les Corses, que là, la famille, sur l'avis d'ailleurs d'un oncle qui est dans Luciano, un oncle de Carlo qui lui dit « Écoute, il faut être réaliste, il faut s'inscrire dans l'histoire, et l'histoire c'est la France demain, donc tu t'inscris dans cette histoire. » Et ils vont travailler avec les Français, il parle français, Carlo, il parle 5 langues, et il va travailler avec Marbeuf. Voilà. Et, Paoli, lui, partira 20 ans en exil
en Angleterre. Alors, cette Madame Mère prend ce titre, évidemment, avec l'Empire. Déjà, c'était difficile pour cette dame corse qui avait connu tout ce que nous venons de dire, d'être la mère du premier consul. Mais alors, devenir Sa Majesté impériale, la mère du plus grand empereur de la Terre, là, ça commençait vraiment à devenir beaucoup.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est Laetitia Bonaparte qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Patrick de Carolis, écrivain et auteur de Laetitia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs aux éditions Plon.
Patrick de Carolis qui ne fait pas écrire Laetitia, qui la fait parler. Ça, je trouve ça tout à fait réussi. Votre livre se lit d'autant mieux et on saute les pages, on les tourne avec allégresse parce que c'est un dialogue qui s'instaure avec des interlocuteurs. Ça, c'est une excellente idée. À mon avis, je veux pas, on ne sait pas de quoi, quelle sera la postérité de ce livre, mais à mon avis, vous êtes en train de créer un nouveau genre, là, parce que les mémoires apocryphes ont eu le succès que l'on sait, et certains ouvrages sont des chefs-d'œuvre, hein, bien entendu. Depuis les mémoires d'Adrien, il y en a eu un certain nombre. Mais là, il ne s'agit pas simplement de mémoires apocryphes, il s'agit quasiment d'une interview. Et on a ces journalistes qui, en quelque sorte, viennent titiller Madame et la font réagir. Donc tout ça est très vivant, c'est d'un ton très parlé, si je puis dire.
Oui, l'idée nous est venue, je dis nous, parce que j'ai travaillé sur ce livre avec mon épouse, Caroline, qui a travaillé sur toutes les recherches en bibliothèque. Et à un moment donné, elle tombe sur une revue qui s'appelait Le Magasin Universel, qui était la grande revue de l'époque où il y avait tous les articles, etc.
Le Magasin Universel,
on en prend connaissance parce que lorsqu'elle décède en 1836, dans une sorte d'indifférence organisée par Rome, on ne veut pas réveiller les vieux démons sur son catafalque qui est noir, il n'y a que les initiales RRB. Donc on veut pas susciter. Hélas, un des littérateurs de ce Magasin Universel fait un article en disant nous apprenons la mort de Madame Mère, et il dit je l'avais rencontrée 3 ans avant à Rome, elle m'avait reçu.
Ça, c'est la mention qui intéresse toujours l'auteur, évidemment.
Et oui, parce qu'elle m'avait reçu et elle nous avait reçu, ils étaient 3 à l'époque. Alors, ce n'était pas une interview, elle ne pouvait pas donner d'interview. Elle était altesse impériale, elle ne pouvait donner que des audiences. Donc, ils la reçoivent et ils ne font pas l'article à ce moment-là. Ils ne créent pas, ils n'écrivent pas le livre qu'ils auraient pu écrire à ce moment-là. Et il commence à raconter, en très peu de mots, mais il commence à raconter l'ambiance et ce qu'elle a pu leur dire, les souvenirs qu'elle a pu refaire vivre.
Dans cette maison un
et
peu
j'ai dit, mais c'est le début du livre. Alors, je n'ai pas pris 3 littérateurs, j'en ai pris que 2 qui vont à sa rencontre et qui vont lui demander audience.
Et là, et elle qui est... demande des précisions et qui la font, voilà, qui lui font préciser
parler,
sa pensée.
Voilà, voilà. Et qui connaissent le sujet par cœur d'ailleurs et qui la titillent à la fois sur Marbeuf où elle le dit tout ce que je vous ai dit, mais en même temps, elle en rougit parce que c'est une très belle période pour elle que ce moment-là. J'essaie de mettre dans des mots historiques, dans un personnage très historique, des sentiments, des émotions pour nous la rendre plus proche.
Alors, madame n'a pas assisté à au sacre, au couronnement, pour être plus exact, de son fils à Notre-Dame de Paris. Vous nous avez dit qu'elle était arrivée quelques jours trop tard.
17 jours après.
Volontairement. Elle était quand même un peu compliquée. Hein. Deux ou trois ans plus tard, Napoléon veut mettre à sa disposition le Grand Trianon, ce qui quand même n'est pas mal pour résidence de week-end pour sa mère. C'est idéal même. Elle visite le Grand Trianon, elle trouve qu'il y a partout des courants d'air, que les pièces sont mal disposées, ça lui convient pas. Elle demande qu'on lui fournisse une demeure décente. Elle avait quand même toujours ce caractère très fort qui s'était mis à la mesure, en quelque sorte, du nouveau standing de la famille.
Toujours ce caractère bien trempé et en même temps une distance avec les ors de la République.
Oui.
Avec,
ou de l'Empire, en l'occurrence.
Et de la République et de l'Empire, surtout. Avec les ors de l'Empire. Parce qu'elle est pragmatique et elle sait que tout ça ne durera pas. Elle ne souhaite pas que son fils devienne empereur. Là, elle le rejoint d'ailleurs Joséphine, qu'elle détestait.
Oui.
Mais sur ce point, elles sont d'accord.
Il y a des pages formidables sur sa détestation pour la belle-fille.
Elles sont d'accord. Et c'est là que, pourvu que ça dure, parce que tout ça n'aura qu'un temps. Et donc, tout l'argent qu'elle va demander à son fils, c'est pas pour son statut, c'est pas pour elle. C'est pour thésauriser, parce que après, toute la famille en profitera. Et pendant 22 ans d'exil, la famille sera aidée par Laetitia, grâce justement à tout ce qu'elle a pu, je dis pas accumuler, mais avoir de son fils. Alors
était l'esprit froid de la famille.
Voilà, elle n'est pas radine, comme on dit. Elle est simplement économe
oui.
Parce que c'est pas son tempérament que de dépenser de l'argent en bijoux.
Il était de bon ton à Paris et notamment dans les milieux de l'ancienne aristocratie fraîchement ralliée à l'Empire de la décrire comme d'une pingrerie terrible. Oui. Cette pingrerie, vous montrez bien qu'en fait c'était plutôt de la prudence et ça a effectivement été utile parce qu'elle a sauvé quand même sa famille. On voit l'Empire s'effondrer. Elle voit tout ça avant les autres. Ça, c'est assez extraordinaire. Elle sent les choses.
Elle sent les choses partir. Elle a ce bon sens qui, à un moment donné, va lui faire prendre un peu de distance avec la cour. Elle n'aime pas fréquenter les grandes réceptions. Son fils Napoléon lui demande d'être présente parce qu'elle a un rang à tenir. Mais d'abord, elle n'aime pas apparaître quand Joséphine est là, parce qu'elle sent que Joséphine se moque d'elle, ricane derrière son dos à cause de son accent et de la syntaxe française qu'elle ne possède pas encore en tout cas. Et donc, elle est assez humiliée, elle déteste ce milieu-là, et elle est forcée, elle se force chaque fois à apparaître en public. Et quand elle apparaît, elle se tait, pour ne pas justement provoquer des railleries.
Mais ce qui va naturellement finir par lui conférer cette image un peu marmoréenne, en quelque sorte. Hein. C'est un peu la statue du commandeur quand elle entre quelque part. Elle fait un peu peur, je crois, Madame Mère, à la fin de l'Empire.
Oui, parce qu'elle a son tempérament aussi.
On sait qu'elle parle à l'empereur, qu'elle a l'oreille de son fils.
Absolument. Je me souviens de cette scène au moment justement où Fouché fait en sorte d'éloigner du pouvoir Lucien. Elle court aux Tuileries, elle rentre dans le bureau de Napoléon. Joséphine est là et elle montre du doigt Joséphine en disant « Mais sachez madame, et dites bien à vos amis, elle veut parler de Fouché, que j'ai le bras assez long pour faire repentir tout ceux qui calomnieraient mes fils. » Ça se passe comme ça. Elle a ce tempérament droit, direct et franc avec les gens. Mais elle a cette réserve qui lui donneront cette image de femme austère et éloignée.
Alors on célèbre en ce moment le bicentenaire des 100 jours, en tout cas de cette période. Là on est encore, si l'on veut suivre exactement la chronologie, on est dans les derniers jours de l'île d'Elbe, où elle se trouvait, bien entendu.
Jusqu'au bout. Et à ce moment-là, si je peux me permettre, il a l'intention de repartir à la conquête de son pouvoir. Et ce soir-là, c'est le 26 février, je crois, il organise un grand bal pour détourner les regards de ses geôliers.
Un écran de fumée.
Voilà, un écran de fumée. Il organise un grand bal, tout le monde est là. Et Pauline et Laetitia sont là.
Bien sûr.
Et à ce moment-là,
c'est Pauline qui anime.
Il se retire un instant, il voit sa mère, il lui dit je dois vous demander conseil. Et elle donne rarement des conseils politiques. Il lui dit j'ai l'intention de partir, reconquérir l'Empire. Et elle lui dit permettez mon fils que je m'efforce d'oublier que je suis votre mère, mais Dieu ne permettra pas que vous mouriez par le poison ou isolé sur une île, mais les armes à la main. Et elle lui donne, à la limite, sa bénédiction. Et il s'en va la nuit même, et c'est elle avec Pauline qui salue les derniers invités du bal, alors que le fils a pris la mer.
Et déjà en mer pour aller reconquérir la France, ce qu'il va faire d'ailleurs avec beaucoup de facilité. Ce qui sera plus difficile, c'est de reconquérir l'Europe, puisque là, évidemment, la coalition finira par le mettre à genoux à Waterloo. Et ça, ce sera pour Madame Mère le début d'une sorte de calvaire. Je crois qu'on peut le décrire comme ça.
Oui, avant, on peut dire que les 100 jours permettra à Lucien de retrouver son frère.
Pour elle, c'est très important.
Et c'est très important. C'est très important pour Napoléon aussi. Louis ne viendra pas. Je n'en connais pas la raison. Est-ce qu'il est affaibli? Est-ce qu'il est malade?
Mal conseillé.
Lucien sera là. Et Lucien repart lui aussi aux côtés de son frère, ce qui est un grand soulagement pour Laetitia.
Laetitia va donc demander au pape l'asile de Rome. Elle va s'installer à Rome. C'est d'ailleurs une période assez méconnue, mais extraordinaire, puisqu'on est dans la Rome du tout début du XIXe siècle, hein, avec ce qu'elle peut avoir déjà de pré-romantique. C'est assez...
Elle ne pensait pas s'installer à Rome au tout début. Elle pensait s'installer en Toscane, mais le grand-duc de Toscane lui refuse cet asile-là. Il lui dit simplement, et très poliment, passez votre chemin. Et donc, elle va à Rome, et c'est le pape qui, effectivement... l'accueille.
Là, les accueille, puisque là, il y a le fameux cardinal Fesch.
Elle est avec le cardinal Fesch. Elle achètera le palais Rinuccini. C'est ce palais qui est à l'angle de Via Corso, qui existe toujours, qui est le palais Bonaparte. Je me demande si c'est pas une banque aujourd'hui. Vous levez les yeux, vous avez toujours Bonaparte sur le fronton. Et il est à l'angle du Corso et de la place de Venise, tout près en face du Capitole. Tout près de la roche torpéienne.
La roche torpéienne, oui, c'est ça. Finalement, il y a quelque chose d'antique, voilà. Vous voyez, dans cette vie.
Et elle passera le reste de ses jours dans ce palais. Et un jour, quand un grand duc d'Autriche vient avec son épouse visiter Rome, le pape demande à ce que tous les palais de Via Corso soient allumés de bougies, et elle refusera de mettre des bougies sur son palais parce qu'elle déteste les Autrichiens à ce moment-là.
On essaie de l'aménager comme on peut. Il y aura cette histoire un peu sinistre de l'envoi d'un médecin et d'un prêtre à son fils à l'île de Sainte-Hélène. On lui ment dans cette affaire. Il faut bien dire qu'elle qui a toujours été si bien informée, là, elle est un peu dépassée par les événements.
Oui, on lui ment, on l'utilise. Elle n'a pas forcément les bonnes informations concernant le véritable sort de son fils sur Sainte-Hélène. La situation est terrible pour lui. Le seul soutien qu'il a pu avoir, Napoléon, à ce moment-là, à Sainte-Hélène, c'est un Anglais, c'est Lord Holland, sans eux, qui est francophile et qui a plutôt épousé la cause française et qui essaie de soulager le sort. En revanche, il est tenu par... sous le joug de Lord Bathurst, qui est le ministre anglais de la guerre et des colonies, et qui lui va lui réserver un sort terrible.
Patrick de Carolis, Laetitia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs, c'est aux éditions Plon. Je voulais, Patrick de Carolis, dire un mot du musée Marmottan, aux destinées desquelles vous présidez maintenant. Que voit-on en ce moment au Marmottan? Toujours les impressionnistes?
On voit toujours l'exposition qui se termine à la fin du mois sur l'impression Soleil-Levant. Oui, sur le vrai roman d'impression Soleil-Levant. Et nous préparons une autre exposition pour le début du février sur la naissance de l'intime.
La notion d'intimité,
oui,
c'est ça.
Dans les salles de bain et la notion d'intime. À partir du corps, à travers les siècles en peinture.
À mon avis, c'est une exposition qui ne le sera pas intime. Merci beaucoup d'être venu.
Merci de votre accueil.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Benoît. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Je le cite, Benoît vous demande quelles sont ces mystérieuses calendes grecques dont on parle pour remettre quelque chose que l'on ne fera pas.
Oui, on dit renvoyer aux calendes. Mmh. Ça fait penser au lièvre et la tortue de La Fontaine, évidemment. Alors, les calendes en question, elles ne sont pas grecques du tout. Elles sont romaines, figurez-vous. En fait, les Romains divisaient le mois en trois périodes de durée inégale. Les calendes, qui étaient le début du mois, les ides, à peu près au milieu du mois, et puis les nones. Et les calendes, le terme exact, c'est le premier jour de chaque mois. Ça vient du verbe latin cala, j'appelle, je convoque. Car lors du premier jour du mois, un pontife annonçait au peuple convoqué le retour de la nouvelle lune et la date des fêtes mobiles du mois suivant. Voilà ce qu'étaient les calendes romaines. Et alors, pourquoi les calendes grecques? Eh bien, parce que c'est ce jour des calendes qu'on était censé rembourser l'argent qu'on devait. Quand on avait des dettes, c'était toujours aux calendes. On fixait les échéances de remboursement aux calendes. Et évidemment, lorsqu'on n'avait pas envie de rembourser l'argent... Et lorsqu'on voulait renvoyer tout ça à un autre moment, eh bien, on parlait des calendes grecques. Alors, il semblerait que ce soit l'empereur Auguste qui, le premier, ait parlé des calendes grecques pour évoquer donc une date tout à fait hypothétique, puisque les Grecs n'avaient pas de calendes, précisément. Vous voyez d'où ça vient. Et l'auteur Suétone, l'auteur latin, confirme cet emploi dans une citation qui signifie que lorsqu'il veut parler des mauvais débiteurs, ils paieront aux calendes grecques, donc l'usage est absolument authentifié. Voilà d'où vient l'expression. De nos jours, d'autres expressions désignent également le fait de renvoyer quelque chose à une date qui n'existe pas. On parle, nous, tout simplement de la semaine des quatre jeudis, par exemple. C'est ça, c'est la même chose. Ou à la Saint-Glinglin. Si vous arrivez à trouver la Saint-Glinglin dans le calendrier, écrivez-moi ou téléphonez-moi ou envoyez-moi un petit mail parce que je serais très curieux de savoir à quelle date ça se situe.